Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Pourquoi les jeunes ont-ils, dans l'ensemble, plus de mal à accéder à l'emploi que leurs aînés ? C'est le sujet de l'émission Éclairage aujourd'hui, une question qui nous concerne tous. Marcel Boiteux, bonjour.
Bonjour.
Vous avez participé à la rédaction du livre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse » publié ce mois-ci, en janvier 2007, aux éditions du Seuil, par l'Académie des sciences morales et politiques. Il s'agit d'une synthèse de 120 pages en forme d'appel lancé à l'ensemble de nos concitoyens sur le sujet des discriminations qui touchent la jeunesse de France dans les domaines de l'emploi et de la formation. Un sujet certes consensuel, mais dont les enjeux sont encore mal perçus. C'est pour lutter contre quelques idées fausses, à vos yeux préjudiciables à l'équilibre social, que vous avez décidé d'appuyer votre réflexion sur des études, des enquêtes et des statistiques du CEPREMAP, le Centre pour la recherche économique et ses applications. Alors, le livre engage l'ensemble de vos confrères de l'Académie des sciences morales et politiques. Il est co-signé par deux anciens premiers ministres, Pierre Messmer et Raymond Barre, par d'autres membres de l'Académie, Michel Albert, vous-même, et Gabriel Debreuil, ainsi que par trois experts sans lien avec l'Académie, Christian de Boissieu, Jean-Michel Charpin et Jean-Philippe Cottis. Avec nous aujourd'hui, Marcel Boiteux, membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1994, et co-auteur de l'ouvrage. Alors, vous êtes économiste, un économiste de renommée internationale. Vous avez reçu en 2001 le prix mondial de l'énergie. On vous connaît davantage comme ancien président d'EDF, comme expert des questions d'énergie et de développement durable. Or, depuis 2 ans, vous avez présidé le groupe de réflexion composé d'experts et d'académiciens à l'origine du livre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». L'ouvrage est structuré en 3 parties. Les jeunes victimes de l'état du marché du travail, le dualisme du système d'éducation et un nouveau déséquilibre entre les générations. Le livre interroge en fait sur l'inquiétude des jeunes et des moins jeunes qui considèrent que les jeunes générations ont moins de chances, entre guillemets, que les précédentes. À la base de l'ouvrage, un constat, celui, je cite, « d'une société française de plus en plus duale, de plus en plus segmentée, dans laquelle pour ne pas remettre en cause la situation des uns, on néglige le sort des autres. Les jeunes étant les premières victimes de cette attitude, c'est une véritable question nationale que pose le problème de la jeunesse. Plusieurs jeunesses coexistent, mais pourquoi les jeunes ont-ils dans l'ensemble plus de mal à accéder à l'emploi que leurs aînés ? C'est le cœur de la première partie de l'ouvrage sur laquelle l'émission Éclairage a choisi de revenir avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, Marcel Boiteux, depuis quand le chômage des jeunes s'est-il développé ?
Il n'y a pas de date extrêmement précise, mais il est vrai que dans les années 50, il n'y avait pas du tout de chômage des jeunes, au point que je me souviens à l'époque que les entreprises allaient prospecter dans les écoles pour retenir des ingénieurs tellement on en manquait. C'est une époque totalement différente que nous vivons aujourd'hui, puisque maintenant, c'est quand même plutôt le contraire. Je pense qu'on peut dater le tournant des années 75 environ. La crise du pétrole n'a été que le révélateur, d'ailleurs, une crise larvée qui commençait à se préparer. Et c'est à la moitié des années 75, des années 70, que le phénomène commence à se manifester.
Dans quel contexte économique et démographique a-t-il fait son apparition ? Un contexte défavorable, quand même ?
Ce n'est pas tellement une question de contexte démographique, c'est le fait que la croissance, qui était très forte, a commencé à se tasser vers cette époque. Il faut dire d'ailleurs que c'est en même temps l'époque où la reconstruction est terminée. Tant qu'on reconstruit, on sait où on va, il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas d'hésitation. Et donc la croissance est rapide, parce qu'on sait où on va, la croissance est rapide. Il y a de l'argent, il y a du travail. Et puis vers les années 70-75, au moment où arrive en même temps la crise du pétrole, on arrive de nouveau à niveau, il faut de nouveau chercher son avenir, on ne peut plus copier. Et de ce fait, la croissance est plus faible, la croissance étant plus faible, l'emploi est moins automatique en quelque sorte. Et finalement, on sent les premiers signes de ce que sera un chômage qui, à l'époque, n'est pas encore bien grave et qui va se développer progressivement.
Alors, quelle est son évolution sur les 20 à 30 dernières années? S'est-il accru?
Alors, l'évolution a été quand même assez impressionnante, puisque on constate aujourd'hui que 17% pratiquement des jeunes sont au chômage, après 3 ans passés sur le marché du travail. Un jeune sur 6, c'est considérable, alors qu'il n'était que 7,5%, donc 2 fois moins, en 1976, au moment où commence l'apparition de ces phénomènes de chômage.
Alors, comment l'expliquer? Est-ce que c'est un problème d'ordre structurel? Vous mettez en garde contre l'idée que le chômage des jeunes est la conséquence d'une faible croissance.
Oui.
Même s'il y a un lien...
Il n'y a pas que cela, en fait. Mm-hmm. Dans les causes du chômage, il y a sans doute le fait qu'au fur et à mesure que le chômage apparaît, on essaie d'en guérir les effets sans trop s'attacher vraiment aux causes. Et une des caractéristiques fondamentales du chômage français, et la raison pour laquelle il s'est beaucoup développé, c'est en quelque sorte qu'on a beaucoup plus soigné le symptôme que la maladie. Et qu'on s'efforce de trouver des mesures rapides, immédiatement efficaces, pour améliorer la situation sans l'améliorer au fond.
Alors, le taux d'emploi des jeunes donne une vision plus juste que le taux de chômage. Vous pouvez expliquer cette approche différente ?
Il y a d'abord un phénomène tout à fait important, c'est que la durée des études a beaucoup augmenté. Et donc, quand on parle d'emploi des jeunes, il faut préciser si on parle de l'emploi de l'ensemble des jeunes ou de l'emploi des jeunes qui sont sur le marché du travail,
oui,
qui est tout à fait différent. Et car, effectivement, si on rapporte à l'ensemble de la population, on peut dire que le taux de chômage n'est pas tellement important. Et si on prend les chômeurs au sens plein du terme, mmh, cela concerne les gens qui sont sortis du système éducatif. Et ceux-là, eh bien, sont effectivement de plus en plus nombreux.
Alors, ils sont définis dans l'ouvrage comme appartenant à la classe d'âge de 15 à 30 ans. Il n'y a pas de définition sociologique particulière dans l'ouvrage. Alors, pourquoi 30 et pas 35? Puisque justement, l'allongement de la durée des études aujourd'hui a considérablement augmenté et que l'entrée dans la vie active avec un emploi stable semble reculer de plus en plus. Vous avez choisi la définition classique de l'INSEE.
Cela dit, 30, c'est quand même vraiment un âge limite, car au-delà de 30, l'étudiant prolongé est quasiment un chercheur, ce n'est plus vraiment un chômeur.
Oui, c'est vraiment pour la catégorie de la jeunesse, entre 30 et 35 ans aujourd'hui. Pour les chercheurs, effectivement, il y a une période encore de flottement qui semble s'allonger et qui n'était pas le cas, qui n'existait pas il y a encore 15 ans.
C'est vrai, c'est effectivement assez frappant de penser que même des gens très qualifiés peuvent avoir une certaine peine à 30 ans à trouver un emploi stable tout de suite, tout au moins. En fait,
voilà.
Quand ils sont diplômés, il y a très peu qui n'arrivent pas à en trouver. Mais c'est un peu plus difficile qu'autrefois. Mais je crois que le phénomène est quand même beaucoup plus marqué pour les âges 25 à 30, où il y a de plus en plus de jeunes qui ont acquis des diplômes et qui n'arrivent pas à se caser. Du moins pas se caser définitivement, qui vont de petit boulot en petit boulot, phase de chômage, phase de travail, et qui n'ont pas l'impression d'avoir, quelque sorte, le retour normal du travail qu'ils ont accompli en étant étudiants. Le fait est qu'il y a de plus en plus, pour les jeunes, une longue phase d'alternance entre du travail, du chômage, et rarement l'arrivée rapide à ce fameux CDI, contrat à durée indéterminée, qui est l'aboutissement normal d'un début de carrière solide.
Alors, pour désigner le chômage des jeunes ou l'insuffisance du taux d'emploi des jeunes, vous parlez dans l'ouvrage d'une longue file d'attente. Plutôt que de chômage, parlons effectivement de difficultés d'insertion des jeunes, et est-ce une spécificité française ?
Effectivement, on peut parler d'insertion et dire que la phase d'insertion, qui était autrefois rapide, elle était même autrefois négative. Quand on venait chercher les gens dans leur école, la phase d'insertion, qui est depuis longtemps positive, devient de plus en plus longue.
Et est-ce une spécificité française ?
Il y a des pays dans lesquels cette insertion est plus rapide.
Oui.
C'est notamment tous les pays qui ont une tradition, une vieille tradition d'apprentissage. Dans les pays où depuis très longtemps, depuis quasiment toujours, c'est le cas de l'Allemagne, il y a, à partir d'un certain niveau d'études, une sorte de formation parallèle dans le système éducatif Et sur le terrain, l'entrée dans la vie professionnelle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Elle n'est pas toujours assurée, mais elle est beaucoup plus facile. Ça, on l'observe ça pour l'Allemagne, on l'observe également pour certains pays du Nord, les Pays-Bas, le Danemark. Où
l'apprentissage concerne un quart des jeunes,
oui.
Ce qui est considérable.
Ce qui est donc très important. Et il est clair que grâce à cela, les jeunes sur ces marchés où l'apprentissage est très développé ne passent pas par cette phase en quelque sorte de débutant.
Alors, l'idée que la situation des jeunes est associée au chômage et à la précarité, c'est une idée assez répandue, largement répandue, et qui participe à la perte de confiance dans un avenir meilleur pour les générations suivantes. Et l'introduction générale du livre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse » parle de désenchantement. Est-ce que l'ouvrage se situe pour autant dans la lignée des publications qui dénoncent une France sur le déclin ?
La notion de déclin est une notion qui a pris un tour quasiment politique.
Oui.
Et donc, notre ouvrage n'a pas pour objet de dire « nous sommes en déclin ». Mais de dire, il faut quand même se méfier. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. Et notamment le fait que la France perd pas mal sa jeunesse, c'est un problème inquiétant pour l'avenir. Et l'avenir aussi bien relativement proche que lointain. Et ça, c'est important. De là à dire que nous sommes dans le déclin, je ne crois pas qu'on puisse le dire. Il y a des choses qui marchent. Nous avons quand même quelques industries extrêmement brillantes. Et si la France est malheureusement très lourdement endettée, ce qui est tout à fait fâcheux, nous ne sommes pas pour autant à la banqueroute. C'est un autre chapitre du livre qui en traite d'ailleurs.
Oui. Alors, l'intérêt de l'ouvrage, c'est pas tant de mettre aussi l'accent sur le chômage des jeunes connu de tous, visible, mais sur la stabilité d'emploi des générations établies, les 30-55 ans. Là, il y a une fracture entre les âges au sein du monde du travail en France, sur laquelle l'ouvrage insiste. En France, est-on chômeur parce que débutant ?
Est-ce que c'est... Oui, alors on l'est en partie. Mm-hmm. Ouais, en partie parce que débutant, mais il y a quand même un problème plus profond qui est très marqué dans notre pays. C'est le fait qu'il y a, en quelque sorte, pour les 30-55 ans, pour cette catégorie-là, il y a une sorte de protection qui s'est organisée et on a l'impression qu'il y a là une sorte d'îlot, de paradis est trop dire, mais d'îlot protégé, où il faut essayer d'arriver. Alors on fait la queue avant pour y entrer, c'est la précarité des jeunes, puis à un moment où on y est. Et ce qui est frappant, c'est pas tellement la chose, c'est le contraste entre la protection de fait, relativement généreuse, importante, dont bénéficient les 30-55 ans, et au contraire, l'incertitude, l'inquiétude de ceux qui ne sont pas encore entrés et qui attendent sur la file d'attente.
Et qui absorbent quand même la flexibilité du travail.
Alors, c'est un autre aspect de la question, c'est que par rapport aux premières années de l'après-guerre, dont on parlait tout à l'heure, où tout se développait en quelque sorte facilement, on est dans une période différente où il y a plus d'incertitude. Ayant plus d'incertitude et en même temps de chômage, le débutant est en quelque sorte par nature défavorisé, puisque on ne sait pas ce qu'il fera, on ne sait pas ce qu'il vaut. Et alors que si on était en période de boom, on les prendrait quand même, quitte à se séparer de l'un ou l'autre, qui entre-temps s'est rendu compte qu'il faut qu'ils soient un peu différents pour réussir ailleurs. Et donc le fait que la croissance de notre pays s'est beaucoup ralentie, accentue le problème des débutants. S'il n'y a pas que cela dans notre système, il n'y a pas que cela, mais il y a quand même une certaine difficulté accrue pour les débutants à trouver un travail et à accéder au bout d'un certain temps de file d'attente, quelquefois très long, à accéder à ce paradis du travail qui est le secteur en quelque sorte abrité des 30-55 ans.
Alors, cet emploi protégé qui semble la catégorie d'âge 30-55 ans, est-ce qu'on peut définir qu'est-ce qu'un emploi protégé ? C'est un emploi en CDI, un emploi de fonctionnaire, un salarié par rapport à un travailleur indépendant ? Qu'est-ce que vous entendez précisément par cette expression d'emploi protégé ?
Il y a effectivement les fonctionnaires dans la mesure où ils ont un statut qui les protège du licenciement. D'autre part, ce sont ceux qui ont un contrat dit de durée indéterminée et que l'on ne peut licencier qu'après des procédures lourdes et complexes, ce qui fait que leur risque d'être licencié est quand même relativement limité. qui ne sont que médiocres, on ne fera pas l'effort de les licencier, c'est trop compliqué. S'ils sont mauvais, on le fera quand même. Et donc, on est quand même dans un secteur électivement protégé. Alors que si au contraire, vous êtes encore en CDD, durée déterminée, sous toute autre forme de travail précaire, ben, s'il y a un pépin, s'il y a quelqu'un, ou simplement une petite régression dans le taux de travail de l'entreprise, on est de nouveau sur le trottoir.
Alors, vous dénoncez aussi les effets néfastes à l'emploi de mesures comme, par exemple, les mesures de protection. Vous l'avez déjà un petit peu abordé tout à l'heure. Des mesures qui peuvent taxer, par exemple, le licenciement de travailleurs même de plus de 55 ans, comme la contribution de la LANDE. Donc, est-ce que protéger du licenciement, ça sert à l'emploi ou ça ne sert pas à l'emploi ?
Eh bien, je crois que c'est une réaction assez normale à court terme. Si j'ose une image, ça avait beaucoup frappé quand j'étais jeune. Le professeur Chimessic nous avait dit, vous savez, quand vous avez sauvé quelqu'un qui se noie, méfiez-vous, parce que s'il est affolé, il s'accroche à vous et vous allez couler tous les deux. S'il s'accroche à vous, vous lui donnez un petit coup sur la tête, sinon vous coulez tous les deux. Donc cette réaction est primaire et contraire à l'intérêt à long terme, elle est assez naturelle, il faut arriver à la surmonter. Or, en matière de chômage, notre société a une réaction immédiate, c'est de bloquer les choses au maximum.
Un réflexe
de blocage. Ce réflexe, il est explicable à court terme, ça ne peut pas durer. Et on peut, à cet égard, envier certains pays du Nord. La mer du Nord a des vertus pour ça que la Méditerranée n'a pas. Envier ces pays du Nord qui ont compris très vite que ce n'était pas la vraie solution. C'est le sauvetage immédiat.
Donc en France, l'emploi est assez protégé et pourtant le sentiment d'insécurité est quand même fort. C'est un paradoxe.
Eh bien, c'est paradoxal. C'est que dans un pays où on a tout figé pour que la menace du chômage soit aussi limitée que possible, tout au moins dans le secteur protégé, on arrive finalement à développer un sentiment d'insécurité parce que de plus en plus, surtout chez les jeunes, mais quelques anciens aussi, trop brusquement sur le marché du travail. Dans un système figé, quand on n'est pas dedans, il est très difficile de re-rentrer. Alors, un système souple, on en sera peut-être plus facilement, mais on y rentre très facilement. Pensez aux États-Unis, je crois que la durée normale de chômage doit être de 3 à 4 mois. Alors, en moyenne, toute personne qui se trouve licenciée sait que dans 3 à 4 mois, elle trouvera autre chose. C'est plus l'angoisse. C'est embêtant, mais c'est plus l'angoisse. Alors que chez nous, quand on est sorti du jeu, on ne sait même pas si on rentrera un jour.
Alors, revenons bien aux jeunes. Là, la première cause du chômage des jeunes est-il la fin d'un CDD, le licenciement ou la démission ?
Je pense que la démission joue un rôle, mais ça ne peut pas être le phénomène majeur. Le CDD, il est par nature.
Mais quand ces contrats prennent fin, automatiquement, les jeunes se retrouvent en recherche d'emploi.
C'est vrai. Et donc, l'idéal pour un jeune, c'est de voir son CDD transformé en CDI.
Alors, les jeunes sont enfermés dans des trappes à précarité. La France et l'Espagne sont les plus touchés, en fait, parmi nos voisins européens. Et quelle est, en fait, la conséquence de cette trappe à précarité ?
Dans la mesure où il y a une trappe à précarité, ça veut dire que la précarité se confirme, en quelque sorte. À mon avis, l'expression « trappe à précarité », qui a une certaine valeur, masque le phénomène fondamental, c'est qu'il y a cette dualité entre le secteur où on a un travail quasiment garanti et toute la partie où on n'en a pas. C'est ça vraiment le grand facteur. Et tant qu'on n'est pas entré dans le système où on est garanti, on baigne totalement la précarité.
Mais est-ce que l'emploi dit protégé existe vraiment ? Parce que même pour les 55 ans, c'est une grande crainte.
Ils ont la crainte. Ils ont beaucoup moins de chances de sortir du système. En revanche, quand ils en sortent, ils ont très peu de chances d'y rentrer. C'est ça le problème. Notre système étant figé au lieu d'être assoupli, le problème, c'est que quand on n'a pas de travail ou qu'on a une précarité de petits boulots ici ou là, on a très peu de chances de rentrer à nouveau
dans le système. Sur le marché du travail.
Oui. C'est ça notre problème.
Alors, les mutations de l'économie conduisent à montrer que le plein emploi tout au long d'une vie aussi, d'une vie active, appartient au passé. Alors, seule la fonction publique peut garantir cette demande. Et en juin 2004, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un sondage réalisé par la Gazette des communes et Le Monde qui a interrogé les jeunes de 15 à 30 ans et les trois quarts des jeunes se sont déclarés intéressés par une carrière dans la fonction publique, ce qui était un petit peu inattendu. Est-ce qu'on sait si c'est plus facile, c'est-à-dire plus rapide, pour un jeune d'obtenir un emploi stable en entrant dans la fonction publique, en tenant compte du temps des concours, de la titularisation, etc., ou dans le secteur privé, où son expérience peut déboucher rapidement sur un CDI, ce qui n'est pas le cas. Mais est-ce qu'il y a une différence entre ces deux voies? Peut-être qu'on ne l'a pas quantifié.
Je ne pense pas qu'il y ait une différence tout à fait fondamentale, mais cette sorte d'idéal attaché au métier de fonctionnaire, c'est la garantie de l'emploi. Quand ces jeunes disent que pour leur rêve, la fonction publique, ce n'est pas comme contractuel.
Non.
C'est comme titularisé.
Et donc, c'est
cette peur de l'incertain, cette peur du chômage qui fait que pour eux, c'est une carrière intéressante. Et ce qui est donc inquiétant, c'est que la proportion de nos jeunes qui ne veulent pas prendre de risques alors qu'ils ont encore 25 ans est quand même très élevée et inquiétante.
Elle est liée sûrement à ce sentiment d'insécurité face à l'emploi qu'on a évoqué. Alors, l'insertion des jeunes est chaotique. Les jeunes diplômés et les moins qualifiés rencontrent-ils les mêmes difficultés pour la recherche d'un emploi stable? Là encore, l'idée qu'un diplôme suffit à trouver un emploi n'est pas tout à fait juste quand on lit l'ouvrage.
Oui, il y a deux aspects a priori contradictoires. C'est que d'une part, les sans diplôme ont beaucoup de mal à trouver un emploi, en tout cas un emploi durable. Et alors ça tient en partie à ce que le diplôme n'a plus la même valeur. Je ne parle pas du niveau d'éducation, ça relève de l'autre chapitre, on peut en discuter, mais ça tient au fait que par la pression même du chômage, on a tendance à voir des gens se contenter de métiers pour lesquels leur formation est un peu surabondante. On a un niveau, on se dit, maintenant je vais avoir un bon niveau de départ, on ne le trouve pas, on se contente de quelque chose de moins. Et on se dit, pourquoi avoir fait des études, c'est pour ça. Et donc, il y a cette impression...
De déclassement
Exactement, l'impression de déclassement par rapport au niveau formel des études.
Y a-t-il un lien mécanique entre l'abaissement du taux de chômage et la flexibilité du travail?
Mécanique, c'est beaucoup dire, mais un lien, certainement. Alors, dans les très grosses entreprises, c'est moins marqué, mais dans la petite entreprise, c'est quand même les plus nombreuses. Un chef d'entreprise de 5 ou 6 personnes ne peut pas, hésite beaucoup à embaucher quelqu'un de plus s'il n'est pas sûr d'avoir un fort développement de son marché qui lui permettra d'embaucher de plus en plus. Si son marché est incertain, il dit jamais, j'ai une petite régression, qu'elle se fait faire du sixième. Et le licencier est rendu quasiment impossible, c'est la ruine. Et donc, beaucoup ont peur. Je crois que cette question de fluidité est très importante. Et je crois que c'est une expression qui est employée dans cet ouvrage. On a fait remarquer que la France est attachée à protéger les emplois et pas les travailleurs.
Oui, on va revenir là-dessus.
C'est caractéristique.
Quelles seraient donc les solutions pour sortir de cette situation? Quelles sont les fausses solutions que dénonce l'ouvrage? Cela sera l'objet de la seconde partie de notre entretien avec Marcel Boiteux, que nous retrouvons dans quelques instants après une courte pause musicale.
écoutez Canal Académie.
Marcel Boiteux, dans l'ouvrage « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse », les auteurs ne se posent pas en donneur de leçons et n'entendent pas proposer de solutions, mais mettent l'accent sur le fait que les solutions avancées et mises en œuvre par les différents gouvernements, de gauche ou de droite, ont toutes été partielles. Alors, c'est le premier point, et que certaines, deuxième point, ont même un effet pernicieux sur l'emploi des jeunes. Vous mettez en fait en garde dans cet ouvrage contre quelques fausses solutions. Alors, quels sont les effets pervers des politiques de réduction de l'offre du travail ? La question là est générale.
Vaste question.
Voilà. Mais on va pouvoir revenir, et surtout sur quelques-unes des grandes idées fausses que dénonce l'ouvrage. Mais globalement.
Je crois que globalement, il y a un premier phénomène, c'est que les politiques d'aide à l'emploi sont souvent extrêmement coûteuses. Je crois que ça équivaut à 2% des PIB. Sont extrêmement coûteuses et que ce coût, il pèse forcément, et en fait, il pèse sur les charges. De sorte que les entreprises traînent un boulet de plus en plus gros et paradoxalement, les résultats les plus faibles.
L'idée qu'une personne en pré-retraite libère une place pour un jeune entrant sur le marché du travail est une fausse solution. C'est ce que dénonce l'ouvrage. Disons que c'est une vision inappropriée. Alors en France, les seniors sont, comme les jeunes, largement exclus de l'emploi. Vous pouvez revenir sur cette corrélation qui est un des points forts de l'ouvrage entre les seniors et les jeunes.
C'est une chose effectivement extrêmement frappante. C'est que dans les pays où les seniors sont peu employés, il y a en même temps beaucoup de chômage. Et ça paraît donc totalement contradictoire.
Le chômage des jeunes.
Ça paraît contradictoire avec cette idée que si les vieux s'en vont, ils laissent la place aux jeunes pour travailler. Alors là encore, dans un système figé, on comprend que si tout est figé, la seule manière pour laisser une place à un jeune, c'est d'enlever un vieux. Mais si tout est figé, plus rien ne marche. Et donc, au bout d'un certain temps, il faut que tout ça bouge. Et quand tout bouge, on constate, et on le constate dans tous les pays, que les pays qui ont le plus fort chômage en même temps sont ceux qui se privent le plus rapidement et le plus abondamment du travail des seniors. Alors, c'est pas un lien de cause à effet.
Non.
C'est clair. C'est probablement, comme toute corrélation qui n'est pas causale, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est quelque chose qui est derrière, c'est cette idée que le travail est une quantité déterminée à se partager. C'est ça l'erreur de base qui règne malheureusement chez beaucoup de nos hommes politiques. Cette idée qu'il y a un cadeau à se partager et que la seule manière de laisser une part de plus, c'est que quelqu'un renonce à sa part. Alors que le problème, c'est de grossir le gâteau de telle manière que tout le monde puisse trouver de quoi vivre. Et c'est probablement une caractéristique majeure de notre situation, cette idée que le travail n'est pas lié à un certain processus de croissance, mais qu'il y a un gâteau, qu'est-ce qu'il est ?
Alors, le dérapage des dispositifs de pré-retraite a-t-il un coût ?
Ces coûts sont très élevés.
Mais quelles sont les conséquences de ces choix économiques ?
Les conséquences, c'est que dans la mesure où on renchérit le travail, on diminue le volume. Plus le travail est coûteux, et plus on est amené à sous-traiter à l'étranger, dans des pays à faible niveau de salaire, des activités de base qui autrefois étaient réalisées en France. Et donc, cette question du niveau des salaires n'est pas négligeable. On constate d'ailleurs que lorsqu'on a décidé d'alléger les charges sur les petits salaires qui sont destinés aux gens à faible formation, on a constaté que l'emploi augmentait un peu. Donc, il y a un lien certain entre le niveau de rémunération de ces jeunes non qualifiés et leur taux d'emploi. Et donc, plus on alourdit la barque et plus on est amené à freiner en quelque sorte la croissance des emplois.
Alors paradoxalement, les jeunes sont pourtant largement bénéficiaires de dispositifs d'aide à l'emploi. Et la France consacre aussi là une grande part de son PIB à la politique de l'emploi des jeunes, beaucoup plus que ses voisins, et pourtant le taux d'emploi des jeunes est inférieur. Donc, que pensez-vous de ce paradoxe ?
Ben, le paradoxe, c'est que finalement, il est tout à fait regrettable qu'on ne comprenne pas, que la France ne comprenne pas, que ça ne marche pas. Quand on observe un pareil résultat, c'est que nous sommes ceux qui aidons le maximum les jeunes à trouver du travail et que c'est nous qui réussissons le moins, c'est que la manière en temps prochain n'est pas bonne. Ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Alors, cette question des charges qui pèsent sur l'emploi est quand même très importante et elle explique largement la situation actuelle. Il faut ajouter qu'à ces charges s'ajoutent également les politiques de formation. Je ne sais pas si on en parle.
Voilà, tout à fait. Oui. En France, c'est quand même un complément essentiel de toutes les politiques de l'emploi. Et pourtant, est-elle suffisamment mise en valeur, la formation ? Elle semble liée à un moment particulier, un moment où on est en recherche d'emploi, où elle n'a pas l'air d'être continue, en fait.
Oui, on a fait un effort considérable. Là encore, si je me souviens bien, alors que les politiques de l'emploi doivent coûter environ 2% de la PIB. Je crois que la politique de formation hors école, oui, doit faire à peu près 1,5% de la PIB. Donc 3,5% de dépenses pour arriver à faire marcher un système figé. Il vaudrait mieux le défiger, c'est clair. Et donc, pourquoi cela ne marche pas? Il y a d'une part le fait qu'on a sans doute développé beaucoup trop rapidement cette politique de formation, de sorte que le système s'est par lui-même, en quelque sorte, alourdi de formateurs qui n'ont pas le niveau et la qualité. Enfin, du côté même de l'offre, on a été trop vite et l'offre n'est peut-être pas au niveau qu'on pourrait espérer. Mais d'autre part, il y a un phénomène tout à fait frappant, c'est que ces formations qui devraient aider, notamment ceux qui n'ont pas de qualification, à trouver plus facilement du travail, elles sont un peu boudées. Elles sont un peu boudées par les jeunes non qualifiés. Et on arrive à ce paradoxe que ce sont les cadres qualifiés qui finalement profitent le plus de ce système, en profitant de la crème du système d'ailleurs. Cependant que la base du système qui n'est pas très bonne, en plus elle est boudée par des gens à qui ils sont destinés. Ce qui laisse penser que cette dépense énorme de formation, là encore, n'est pas extrêmement rentabilisée.
Qu'elle n'est pas adaptée peut-être non plus. Alors, y a-t-il eu des mesures positives pour augmenter la part de l'emploi non qualifié, justement,
bien,
par rapport à l'emploi total?
La plus efficace, ça a été l'allègement des charges sur les petits emplois pour personnes non qualifiées. C'est pratiquement... Et là, on a constaté un effet. Et on a constaté quand même qu'il y avait un petit accroissement de l'emploi des non qualifiés. Il faut dire en même temps que plus se développe la mondialisation et plus les emplois non qualifiés partent ailleurs. Il reste en France, bien sûr, tout un domaine d'emploi peu qualifié dans les métiers de proximité ou dans les métiers qui sont par nature liés au sol. Je pense aux bâtiments, aux travaux publics. Il y a un paradoxe, c'est que finalement, dans ces métiers de travaux publics et dans ces métiers de restaurants et autres, on cherche du travail.
Alors, est-ce que protéger les individus et non les emplois, c'est la piste que vous proposez? La société française est-elle prête à suivre cette piste? Jusqu'où peut-on aller? Est-ce que faut-il refonder le CDI dans sa totalité?
Oui, je crois effectivement le problème, une large partie du problème est là, c'est que protéger les emplois, ça veut dire éviter les licenciements, éviter les restructurations. Et donc, je le répète, figer le système. Et que ça, ce n'est pas viable. Alors, c'est vrai que dès lors qu'on fait fondre tout ça, que ce n'est plus figé, tout bouge. Et les gens ne sont plus... L'insécurité apparaît. Et donc, l'insécurité apparaît inévitable dans l'évolution d'une société. Le problème, c'est de faire en sorte que cette insécurité ne soit pas trop pénible à supporter. D'où cette idée qu'il faut protéger l'employé quand à la suite d'une évolution d'une entreprise, il y a un certain nombre de gens qui se trouvent au chômage, il faut qu'ils soient très bien pris en charge, formés à autre chose, et vraiment que ça soit pris avec beaucoup de sérieux. Vous avez quand même des pays dans lesquels ce transfert se fait très facilement. Il y a un des pays du Nord que nous citons, Danemark, où les gens changent de métier, mais à une vitesse incroyable. Je ne me rappelle plus le résultat, mais c'est tout à fait étonnant. Et ils ne sont pas inquiets. Je le répète, ça se voit déjà aux États-Unis, il n'est pas grave de perdre son job quand on est sûr d'en trouver un autre. Voilà la question.
Alors, est-ce qu'il y a des solutions réglementaires que vous proposeriez?
Il y a d'abord un premier... La question des licenciements, qui est très importante, car je le répète, c'est parce qu'on ne peut pas licencier que certains petits chefs d'entreprise, pas les gros, mais certains petits, hésitent à embaucher. Or, ce n'est pas tellement la loi, l'interprétation de la loi. En fait, on constate que les instances de justice sont très axées sur la protection des emplois et non pas des travailleurs, et donc sont très sévères sur les licenciements, et donc répandent dans
vous
tout le milieu...
Vous parlez des prud'hommes ?
Oui, prud'hommes, et éventuellement à l'appel d'ailleurs. On constate qu'il y a là une application dont on peut penser qu'elle est sans doute trop sévère ou trop à courte vue. Il n'y a pas question de supprimer tout le droit du travail. La protection entre les licenciements abusif. Et le mot abusif, dans la zone de l'abus, il y a de tout petits abus et le très gros abus. Et du côté des petits abus, il y a quelquefois des confusions regrettables.
Alors, pour sortir de cette situation duale, qui en plus est associée à des réflexes de protection de l'emploi, est-ce qu'il faut proposer des solutions politiques et réglementaires qui touchent d'abord les jeunes ou l'ensemble de la population active ? Est-ce qu'il faut réformer pour tous ? Est-ce que ça serait moins pernicieux que les réformes que vous avez pointées, toutes ces réformes que vous taxez de réformes en demi-teinte ? Est-ce qu'il vaut mieux réformer pour tous ?
Je crois qu'il faut évoluer l'ensemble du système. Si on prend des mesures typiquement orientées sur les jeunes, d'abord, elles conduisent comme le CPE.
C'est comme le CPE, effectivement.
À des révoltes faciles à orchestrer qui, finalement, s'avèrent tout compte fait plus néfastes qu'elles ne le sont réellement, avec une intention qui était, on a eu, tout à fait raisonnable. Car il s'agit de mettre un peu d'huile dans le système. Donc, je crois que c'est une vue d'ensemble du statut du travailleur qui doit être évoqué, qui doit être envisagé. On a parlé du contrat unique dans lequel on acquiert des droits plus importants, en disant qu'on reste dans la même entreprise, pourquoi pas. Enfin, je pense qu'il faut arriver à trouver un système dans lequel il n'y a pas d'un côté les manants, de l'autre les gens qui sont dans la forteresse. Il faut arriver à ouvrir tout cela d'une part, d'autre part, à fluidifier le système. Tant que le système ne sera pas fluide, il y aura forcément des nantis et des chômeurs.
Alors, une question, est-ce que vous avez considéré le CPE comme une bonne ou une fausse solution ?
Ça devient une question politique dans la mesure où elle a pris une tournée politique.
Oui,
sauf que l'inspiration était
quand
bonne.
Même
L'inspiration était bonne, mais quand la manière dont elle s'est présentée, ça a été désastreux. L'idée, c'est bien que si on veut que les petites entreprises, et en fait c'est la majorité, si les petites entreprises embauchent, il faut qu'elles puissent, en cas de besoin, licencier. Le risque, c'est le licenciement abusif, c'est vrai. Mais en face de ce risque, il y a la perspective de voir des créations d'emplois beaucoup plus importantes. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir plus d'emplois, quitte à avoir des licenciements éventuellement abusifs, ou bien renoncer à créer des emplois tout en étant sûr qu'il n'y a pas d'investissement abusif. Et c'est dans ce choix, dans cette pondération entre l'abus et la croissance, qu'il faut trouver une solution raisonnable et acceptable par la population.
Comment concilier la flexibilité du travail et la cohésion sociale ?
Eh bien, il y a une solution idéale, mais qui est peut-être difficile à mettre en œuvre, c'est la croissance. Et s'il y a une forte croissance, donc une forte demande de main-d'œuvre, à ce moment-là, on pourra beaucoup plus facilement modifier la législation et rendre le système fluide. Le rendre fluide alors qu'il y a du chômage et de la misère, c'est beaucoup plus difficile. Difficile à faire de façon équitable et difficile ensuite à proposer, enfin, sans avoir aussitôt une révolte des populations. Et donc, je crois qu'il y a d'abord une tâche de persuasion. Il faut que les gens se persuadent qu'à trop protéger les emplois, on maltraite les travailleurs. Ça, c'est quand même très important. Avec cette idée que l'idéal, c'est d'un système dans lequel, quand on perd son job, on en retrouve très facilement un autre. C'est ça l'idéal.
L'idée, c'est de protéger les individus plus que les
enfants. Et donc, il faut qu'on puisse bouger, il faut qu'on puisse licencier. Et ce qu'il faut, c'est que ceux qui n'arrivent pas au bout de 3 mois à trouver quelque chose, normalement, comme ça se passe ailleurs, enfin, en tout cas dans les pays développés, il y a un système pour les soutenir très solidement, qu'ils ne soient pas condamnés à la misère. Il faut même que, si ça dure un peu plus de temps, leur niveau de vie ne soit pas modifié. Il faut cependant éviter que ça devienne un statut.
Alors, la question de l'emploi des jeunes mérite davantage que des réformes partielles. L'ouvrage se situe au-delà des positions politiques partisanes. Son originalité est de montrer preuve à l'appui par des graphiques la détérioration des conditions d'insertion des jeunes sur le marché du travail depuis 20 ans, source d'un déséquilibre social et intergénérationnel. Le livre lit donc « Les difficultés d'emploi des jeunes et les échecs de la démocratisation scolaire, les deux sont indissociables. C'est de ce terreau que se nourrit le malaise de la jeunesse. » Voilà le constat des académiciens. Canal Academy vous propose de revenir dans une autre émission avec Raymond Barre, dans la série consacrée à la publication de l'Académie des sciences morales et politiques, à savoir le livre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». Marcel Boiteux, merci.
Merci.